donc depuis hier soir, et ça prend de l'ampleur ce matin, Québec qui va maintenant vacciner toute personne âgée de 45 ans et plus, avec ou sans rendez-vous, donc les deux formules sont possibles. Ça veut dire qu'on a décidé d'étendre l'accès à la vaccination. Pour ce qui est des personnes handicapées, par exemple physiques, intellectuelles, il y aura un plan qui va être présenté demain. Depuis cette annonce, beaucoup de femmes se posent des questions et j'en ai reçu là énormément dans les derniers jours parce qu'on sait que les cas où l'AstraZeneca était en cause, quand il y a eu des complications, ce sont principalement, là, pour ne pas dire exclusivement, des femmes qui ont eu des complications. Fais le point sur toutes ces questions-là avec Dr Caroline Couache, qui est pédiatre, microbiologiste, infectiologue à Sainte-Justine. Dr Couache, bonjour.
Bonjour, M. Arcan.
D'abord, est-ce qu'on peut dire que les effets secondaires comme thrombose qui ont été relevés là, avec l'entrée en vigueur de l'AstraZeneca à travers le monde, là, ce sont des femmes là, qui les ont eues?
Pas exclusivement, en fait. Il y a eu des hommes aussi qui ont été touchés par les complications. Je vous dirais que ce qui est difficile, entre autres en Europe, c'est qu'on n'est pas capable de savoir le nombre de doses administrées ni par groupe d'âge ni par sexe. Alors, on a l'impression que les complications qui ont été trouvées au début chez les personnes, entre autres plus jeunes, étaient davantage des femmes parce que c'était le vaccin avait été utilisé en priorité chez les travailleurs de la santé qui, comme ici, sont composés majoritairement de femmes. Donc, il y a probablement un facteur d'exposition. Donc, plus de femmes l'ont reçu et il y a eu plus de cas chez les femmes, mais on a eu aussi des cas chez des hommes.
OK. Quand on a des cas, là, quels sont les symptômes? Ça arrive combien de temps après l'injection? Qu'est-ce qu'on sait là-dessus?
Bien, ce qu'on sait, c'est que ça arrive entre 4 et 16 jours après l'injection, que de façon générale, c'est une arrivée assez subite de symptômes. Soit un mal de tête très prononcé avec des vertiges, autrement des difficultés respiratoires, douleurs thoraciques, douleurs abdominales importantes aussi et parfois gonflement des jambes. Mais de façon générale, ça s'est présenté avec des symptômes qui n'étaient pas subtils.
Donc, c'était clairement, il y avait un problème là.
Oui, 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 tout à fait.
Et ce que vous me disiez l'autre jour, c'est que maintenant, on est conscient de ça et le traitement est disponible.
Exactement. Donc, au départ, parce que ça se présente comme une thrombose avec des plaquettes basses, avant qu'on sache exactement ce que c'était, les gens donnaient de l'héparine et des plaquettes, puis ça faisait juste empirer le caillot puis la thrombose. Maintenant, quand on a une histoire de vaccination par AstraZeneca avec des plaquettes basses, à ce moment-là, on ne donne pas d'héparine, on fait d'autres tests, on donne des immunoglobulines et un autre anticoagulant qui n'est pas de l'héparine, puis on donne pas de plaquettes. Donc, avec ce traitement-là, la proportion de gens qui décèdent est en train de diminuer là, de façon marquée.
OK. Là, je vous donne un résumé de courriel puis même de collègues de travail. Là, j'ai 47 ans. Je fume, par exemple. Là, j'entends tout ça sur AstraZeneca. J'hésite à y aller.
Oui. Alors, je pense que la première chose qu'il faut dire, c'est qu'à part le vaccin, il n'y a pas d'autres facteurs prédisposants. C'est-à-dire que même si on prend des contraceptifs oraux, qu'on a eu des histoires de thrombose, qu'on fume, le risque de thrombose de cette complication-là n'est pas plus grand. La seule contre-indication qui existe présentement dans la monographie, c'est de ne pas prendre ce vaccin-là si on est connu pour avoir un HIT, là, c'est un heparin-induced thrombocytopenia. Fait que ceux qui l'ont le savent.
OK, dites-moi, c'est quoi ça?
Ça, c'est une thrombose qui est très similaire à ce qui arrive avec l'AstraZeneca, mais qui est produite habituellement quand on donne de l'héparine. Donc, c'est des gens qui ont des auto-anticorps. Quand ils reçoivent de l'héparine, ils vont faire une thrombose. Fait que les gens qui ont ça, habituellement, le savent déjà. Et donc, s'ils ont cette condition médicale sous-jacente-là, on ne recommande pas la vaccination par AstraZeneca, mais autrement, c'est à peu près la seule contre-indication ferme. Les Anglais ont dit, si vous avez d'autres problèmes de coagulation, là, de thrombose, parlez-en à votre médecin, puis peut-être qu'on vous donnerait un autre vaccin, mais c'est vraiment la seule contre-indication ferme pour l'instant, c'est celle-là. Maintenant, je ne sais plus ce que je vous racontais, j'ai oublié.
Ça fait beaucoup de choses.
Ouais.
Mais y a des gens qui regardent ça en disant, mais puis là, je sais que la question a été posée hier, mais je vous la pose à vous, là. Il y a quelques jours, c'était 55 ans. On ramène ça à 45. Dans d'autres provinces, c'est 40 ans. Est-ce que c'est une décision vraiment scientifique ou c'est une gestion des stocks qu'on a de ce vaccin?
C'est pas une gestion de stocks. C'est une décision qui est basée sur une évaluation des risques versus bénéfices. Donc, si j'ai pas de maladie autour de moi, de prendre un risque de 1 sur 100 000 d'avoir un caillot ou une complication sérieuse, ça vaut pas la peine. Mais à partir du moment où il y a de la transmission soutenue dans notre région, où les gens se mettent à être malades et aller aux soins intensifs, à ce moment-là, d'avoir un risque de 1 sur 100 000 d'un caillot traitable versus me ramasser aux soins intensifs, ça commence à valoir la peine. Donc, la raison pour laquelle il y a des différents cut-off, c'est parce que ces provinces-là ont évalué leur risque chez eux en termes d'incidence. Donc, le Québec est quand même moins pire que l'Alberta, l'Ontario et potentiellement la Colombie-Britannique, et c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas nécessairement exactement au même âge. Par ailleurs, le Québec a fait des évaluations par tranche de 5 ans, alors qu'ailleurs, on l'a fait par tranche de 10 ans.
OK. Ce matin, l'Association des obstétriciens et gynécologues du Québec demande à la santé publique d'inclure les femmes enceintes dans les priorités de vaccination. On mentionne que le risque d'hospitalisation aux soins intensifs est de 5 fois plus élevé chez les femmes enceintes que dans la population en général. On sait que demain, on va élargir pour les personnes handicapées physiques, intellectuelles. Est-ce que les femmes enceintes devraient être vaccinées plus vite?
Bien, avec ce qu'on voit en Ontario, les femmes enceintes sont effectivement plus à risque que les femmes non enceintes de se retrouver aux soins intensifs. Puis c'est sûr qu'avec cette complication respiratoire-là, souvent ce qu'il faut faire, c'est ventiler la personne couchée sur le ventre. Et donc, avec une maman enceinte, c'est comme pas possible. Donc, oui, effectivement, ce qu'on voit de plus en plus, c'est que le risque de complication est plus grand. La raison pour laquelle les femmes enceintes, au début, n'avaient pas été priorisées, c'est devant l'absence de données chez les femmes enceintes. Elles avaient été toutes exclues des études randomisées de phase 3. Mais sauf que depuis qu'on a le vaccin, il y a de plus en plus de femmes enceintes qui ont été vaccinées. On voit que dans les registres, les choses se passent bien. Donc, on commence à avoir des données d'innocuité, là, donc de sécurité, qui sont rassurantes. Et compte tenu de ce qu'on voit en Ontario, je pense que ça vaut effectivement la peine là, de vacciner les femmes enceintes.
Parce que si elles ont la COVID, les complications sont, disons, non seulement possibles, mais en tout cas, le risque est plus élevé que d'autres, puis le traitement est compliqué compte tenu de leur statut, là.
Exactement, puis on veut pas non plus se ramasser avec plein de prématurés. On se rappellera que pendant la pandémie H1N1 en 2009, les femmes enceintes avaient été aussi un groupe beaucoup plus à risque de complications, puis on en avait vu une bonne proportion de se retrouver aux soins intensifs. Donc, quand on a la bédaine qui nous empêche de respirer, c'est clair que n'importe quelle infection respiratoire grave est beaucoup, beaucoup plus difficile à gérer.
Là, je veux vous entendre, parce que j'entends toutes sortes de points de vue, là. Hier, au point de presse, on nous a expliqué, parce que là, il faut gérer les stocks, là, moins de Moderna, plus de Pfizer, il y a des gens qui ont eu Moderna. Est-ce que pour la deuxième dose, on peut, là, est-ce que les recherches nous montrent qu'on peut passer d'un à l'autre, d'un fabricant à l'autre?
Bien, il n'y a pas d'étude clinique qui a été faite pour démontrer que un puis l'autre sont sécuritaires et efficaces. La seule chose, c'est qu'il y avait toujours eu une certaine ouverture dans les recommandations fédérales qui disait, écoutez, si vous commencez avec un puis qu'il n'y en a plus, vous en rappelez plus, essayez de rester dans la même plateforme, donc ARN messager, puis donner l'autre dose parce que l'important, c'est de continuer à vacciner. Je pense que si jamais on est obligé de faire ça, l'important, ça va être de suivre les gens puis s'assurer qu'il n'y a pas de problème. Mais on a déjà des systèmes de surveillance en termes d'effets secondaires en place, puis l'efficacité est suivie au niveau populationnel de façon routinière. Donc, on a déjà ces infrastructures-là, je vous dirais, pour le faire. Et à un certain point, si les stocks de Moderna ne rentrent pas, ça va être une décision qu'on devra prendre sur la base d'une opinion d'expert, parce qu'on n'a pas le choix, là, mais sans avoir de données scientifiques à l'appui.
Mais idéalement, il faudrait avoir la deuxième dose du fabricant de la première dose qu'on a reçue.
Bien, c'est ce qu'on dit pour tous les vaccins. C'est, idéalement, on essaie de compléter la série avec le même vaccin, mais par moment, dans d'autres, pour d'autres maladies, on a changé de vaccin. Par exemple, pour le VPH, mais ça, on avait des données. On a fait du VPH 9 suivi de VPH 2, donc le Gardasil suivi de Cervarix. Pour les pneumocoques aussi, on a des données où quand on change de produit en cours de route, c'est quand même correct. Donc, on pense que d'un point de vue scientifique et connaissances préalables, ça devrait marcher, mais je ne peux pas vous dire est-ce que vous avez des données de phase 3, j'en ai pas.
OK. La question qui revient tout le temps, quelqu'un qui a eu la COVID, est-ce que c'est vrai qu'il a besoin d'une seule dose et pas des deux doses?
qu'on voit dans la littérature, c'est que la plupart des gens qui ont fait la COVID, surtout ceux qui ont eu des symptômes, et plus la maladie a été sévère, plus on sait que c'est suffisant. Après une dose, ils répondent aussi bien que moi après ma deuxième dose, par exemple. Toutefois, il y a quand même certaines personnes qui ne répondront pas aussi bien après leur première dose. Dans notre étude de cohorte, donc on suit des travailleurs de la santé qui ont fait la COVID, au bout de 6 mois avant leur vaccination, il y en avait 25% qui avaient perdu leurs anticorps. Est-ce que ça veut dire qu'ils étaient plus protégés? Est-ce que ça veut dire qu'après une première dose, ils répondent pas aussi bien? On le sait pas trop. Donc, il reste une partie d'incertitude. Je voudrais que ceux qui ont fait une COVID vraiment sévère, là, il y a trois mois à six mois, eux, sont avec une dose, répondent super bien. Et souvent, ces gens-là vont nous dire qu'après la première dose, ils ont été malades comme des cochons. C'est-à-dire qu'ils ont eu plein de symptômes systémiques. Ils ont eu de la fièvre, fatigue, grosses douleurs. Et donc là, on sait que leur système immunitaire était complètement prêt à l'attaque et il a très, très bien réagi. Mais la décision a été au Québec de donner juste une dose, en France de donner juste une dose, mais c'est pas tous les pays qui ont pris cette décision-là.
Merci beaucoup, Dr. Couache. Bonne journée.
Au revoir.
Au revoir, Dr. Caroline Couache, qui est pédiatre, microbiologiste et infectiologue à Sainte-Justine. Donc, c'est important. Vous avez entendu pour ce qui est des symptômes. On ne peut pas passer à côté. Là, on s'en rend compte assez vite. Il y a un traitement. On a été capable de cerner. Pour ce qui est des femmes enceintes, je pense qu'il faut les ajouter à la liste des personnes, enfin des personnes à être vaccinées en priorité. Vous avez entendu les complications, puis elles sont plus à risque. Puis en plus, les complications sont plus difficilement traitables. Et donc, ce matin, l'Association des obstétriciens et gynécologues qui demande à la santé publique d'inclure, peut-être que ça va se faire demain avec le point de presse, là, parce que demain, on aura les détails pour la vaccination des personnes handicapées physiques et intellectuelles. Voilà pour la vaccination, 7h37.